L'organisme Archéo Mamu Côte-Nord a déposé une ordonnance de faillite le 18 mars dernier. Cela a créé un regain d'intérêt pour Archéo Mamu Côte-Nord et l'impact de sa fermeture. Fondé en 2015, l'organisme à but non lucratif voué à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine archéologique a cessé ses activités depuis un an, nous confirme Vanessa Morin, archéologue de formation et ancienne co-directrice d'Archéo Mamu Côte-Nord. Nous avons discuté avec Vanessa Morin des raisons derrière la faillite annoncée officiellement dans les derniers mois.
Ben, ce que je dirais, dans le fond, ce qui a mené à la fermeture, c'est un ensemble de toutes erreurs qui ont été commises. Et je pense que la plus grosse, l'organisme qui s'appelait Archéo Mamu Côte-Nord, c'est parce qu'en fait, c'est ça, il exerçait ses activités vraiment, dans le fond, au niveau de la région nord-côtière. Puis c'était déjà un énorme territoire, sauf que à partir de 2020-2021, les activités de l'organisme ont été étendues en dehors de la région. Puis je dirais que ça a pas bien réussi à l'organisme.
L'ancienne co-directrice de l'organisme nous explique qu'à la suite de l'étendue de leurs activités, un mouvement de syndicalisation s'était formé et que malgré l'adhésion d'Archéo Mamu Côte-Nord aux valeurs du mouvement, il n'était pas représentatif des réalités des Premières Nations. Financièrement, l'organisme ne pouvait pas non plus supporter une syndicalisation. La possibilité qu'Archéo Mamu Côte-Nord se rende en cour de justice pour éviter une syndicalisation n'était pas viable non plus pour l'organisme. La fermeture d'Archéo Mamu Côte-Nord a des impacts réels pour la préservation du patrimoine matériel de la Basse-Côte-Nord.
Le patrimoine est vraiment menacé, en fait, en Basse-Côte-Nord. Il y a des artefacts et des structures partout qui sont vraiment visibles aussi, qui ne sont pas protégés par un couvert végétal, un peu comme là où il y a des plus grandes forêts. Fait que c'est ça, je voudrais en fait que c'est ça, c'est comme il n'y a plus de présence, il n'y a plus de veille non plus. Je connais pas non plus la nature en fait du développement qui est en train qui est prévu pour la base Côte-Nord, mais tu sais, c'est ça. Il y a plus de veille qui peut être assurée. Fait que c'est comme si ce patrimoine-là était laissé un peu à lui-même. En fait, il va reposer vraiment beaucoup sur les personnes qui vont le découvrir.
Selon la procédure habituelle, les artefacts de l'organisme ont été remis aux communautés autochtones concernées ainsi qu'à la Réserve d'archéologie du Québec. Vanessa Morin souligne au passage qu'il s'agit d'une perte d'accès pour la population de la région.
Archéo Mamu Côte-Nord, un de ses chevals de bataille était de rendre accessible à monsieur, madame, tout le monde ces collections-là, parce qu'une fois qu'ils ont pris le chemin de la réserve archéologique, ils sont conservés, mais ils ne sont pas accessibles à monsieur, madame, tout le monde. C'est les musées qui vont aller sélectionner, en fait, dans les collections-là. C'est les chercheurs qui vont y aller, mais les collections ne sont pas visibles par le commun bâtiment, c'est ça, par monsieur, madame, tout le monde. Fait que Mamu, c'est ça qu'il essayait de faire en conservant sur place, c'est que les gens pouvaient voir, en fait, ces artefacts-là parce qu'on les conservait au niveau de la Côte-Nord. T'sais. N'importe qui pouvait rentrer dans le laboratoire, nous faire des demandes, on les montrait, tu sais, on planifiait des projets aussi, notamment avec ça de la Côte-Nord, pour rendre accessible, dans le fond, de façon visuelle, ces artefacts-là, les remettre dans leur contexte, raconter leur histoire, tu sais. Mais c'est ça. Fait que la démarche, là, je dirais, dans le fond, c'est qu'ils ont pris le chemin de la réserve archéologique du Québec. Puis s'il n'y a pas un musée qui les sélectionne, ben, les gens ne les verront pas. Un des autres enjeux, on va dire, au niveau de la Côte-Nord, c'est que la Côte-Nord, en fait, c'est 20% des sites archéologiques qui sont connus au Québec. C'est énorme. Mais la représentativité des différents sites de la Côte-Nord puis du patrimoine archéologique au niveau des musées ne reflète pas. 20%, là.
Dans ce contexte de grande richesse patrimoniale, l'archéologue rappelle aux citoyens et aux citoyennes les grandes lignes qui peuvent guider une découverte d'ordre archéologique.
Je dirais, en fait, la première chose à faire, c'est d'évaluer le contexte dans le fond de la découverte. C'est de regarder, en fait, l'artefact, la pointe de projectile, le grattoir, y es-tu dans une érosion, dans une perturbation, peu importe. Mais tu sais, si la réponse à ça, c'est oui, tu sais, le lieu est perturbé, c'est ça. Tu sais, on va dire, OK, de prélever l'artefact, mais de prendre un point GPS, prendre des photos, communiquer soit avec une firme d'archéo, soit dans le fond, tu sais, ou avec la direction régionale de la Côte-Nord pour entreprendre la déclaration de découverte sans permis. À partir de là, au moins, c'est comme c'est enregistré comme découverte. Sinon, souvent ce que je vais dire aussi, c'est que c'est dans l'évaluation qui est faite, Ben, tu sais, si on se rend compte que, tu sais, bon, il n'y a pas vraiment de perturbation, tu sais, c'est comme, tu sais, ça a l'air d'être pas mal dans son sol de ce que ça serait supposé être. Ben, tu sais, on demande de le laisser en place, de prendre une photo, prendre un point GPS, puis de communiquer avec la direction régionale du ministère de la Culture.
Si Archéomamu Côte-Nord n'est plus là pour assurer une veille du patrimoine matériel sur la base Côte-Nord, des citoyens et citoyennes continuent d'y œuvrer à leur façon, comme le soulignait plus tôt Vanessa Morin dans notre entrevue. Trina Beaudoin est originaire de Blanc-Sablon. Elle a fait la rencontre de Vanessa Morin sur un site de fouilles archéologiques il y a environ 5 ans. Depuis, les deux femmes ont créé un lien d'amitié très fort, basé entre autres sur une passion commune pour le patrimoine matériel. Trina Beaudoin fait partie de ceux et celles qui assurent une prise en charge locale de ce patrimoine que les gens se réapproprient par la même occasion. Elle nous a parlé de sa grande passion pour les sites archéologiques, les paysages naturels, les monuments anciens, qui représentent pour elle l'histoire, la culture et l'identité de sa région.
Je pense que la raison pourquoi c'est si important pour moi, c'est parce que c'est important pour tout le monde. C'est important pour les autres. Je trouve que c'est important de préserver ce patrimoine-là. C'est important de le mettre en valeur. Tu sais, même les gens de Blanc-Sablon ou même de la Basse-Côte-Nord, on sait même pas ou on connaît même pas la grandeur de notre histoire.
À sa manière, Trina Beaudoin assure une veille sur le patrimoine matériel. Lorsqu'elle trouve des artefacts, par exemple, elle prend des photos, indique les coordonnées, prend des notes. Elle parle de sa passion autour d'elle, avec les jeunes, avec ses amis, pour sensibiliser les gens de sa communauté sur la préservation des témoignages de l'histoire de la Basse-Côte-Nord.
Je fais souvent référence à la pyramide de Maslow, puis les 5 besoins fondamentaux. Un des besoins fondamentaux, c'est le besoin d'appartenance, le besoin de créer des liens, le besoin de découvrir, de se connaître. Puis le patrimoine culturel fait justement partie de ça. Pour moi, c'est le patrimoine culturel, c'est au-delà d'un droit, c'est un besoin. C'est un besoin qui nous aide à nous reconnecter. Pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à me reconnecter. Tu sais, le fait d'être en nature, c'est comme ouvrir un livre. Tu ouvres un livre, puis t'as une histoire, mais c'est l'histoire de ta région.
Cet été, Trina Beaudoin ira avec son conjoint à la pêche aux homards. Cela ne l'empêchera pas de continuer à mettre du temps dans ses projets de préservation du patrimoine matériel. Avec d'autres férus d'archéologie et avec la collaboration de la municipalité de Blanc-Sablon, Trina Beaudoin prévoit transformer le site des Tumulus de Bras d'Or, découvert au début des années 1970 par l'archéologue René Lévesque, en un attrait touristique. Le site daterait de 7 à 8 000 ans.
Ce site-là, après la fouille, a été laissé ouvert. Et on l'a reconstruit avec un archéologue, William Fitzhugh, du musée Smithsonian.
La MRC du Golfe du Saint-Laurent finance ce projet de reconstruction et de mise en valeur des tumulus de Bras d'Or qui a commencé l'été dernier sous la direction de l'anthropologue et archéologue William Fitzhugh. L'équipe est au stade de la création de panneaux d'information qui seront disposés sur le site archéologique. Pour ce faire, l'archéologue Fitzhugh reviendra sur les lieux en juillet. L'endroit devrait être accessible au public à l'été 2026.
Ça va aider à la mise en valeur dans la région, dans la communauté. Puis je pense que ça prend beaucoup plus de projets comme ça.
Un projet connexe mené par André Lavallée a aussi été déposé cette semaine pour que l'archéologue Yves Chrétien puisse donner une séance d'information publique à la communauté de Blanc-Sablon sur le sujet des tumulus de Bras d'Or. Trina Beaudoin nous parle aussi de son souhait par rapport à la création d'un centre d'interprétation pour rassembler toutes les trouvailles de la communauté qui ont une valeur archéologique. En attendant, Trina Beaudoin a une autre idée qui lui est venue en parlant avec Vanessa Morin et qui commencerait par la déclaration des artefacts trouvés au ministère de la Culture et des Communications, puis à leur exposition dans la communauté.
Moi, je ne suis pas une professionnelle. Fait que ça va prendre des professionnels pour qu'ils puissent un petit peu me raconter l'histoire, pour que je puisse donner un petit peu l'histoire de l'objet que je présente, qui va servir à capturer l'attention un peu plus. C'est l'histoire de cet objet-là qui est important. L'objet est important en tant que tel, mais c'est son histoire, ce qu'elle raconte qui est important.
Pour ce faire, Tuina Baudouin aura besoin de gagner la confiance des gens, nous explique-t-elle.
L'idée, ça serait que les gens puissent se sentir assez confortables, puis là, de venir montrer leur collection. Puis là, avec l'aide d'archéologues, les archéologues pourraient leur dire, justement, leur raconter l'histoire de leur collection. S'ils veulent les exposer, ils peuvent les exposer, mais ce serait de les prendre en photo, si possible, s'ils se rappellent où ils les ont trouvés, tu sais, de prendre toutes les informations, puis après ça, le documenter pour pas que ça soit perdu. Tu sais, ce qui arrive souvent, c'est que les gens gardent leur collection, ça reste dans une boîte, puis après ça, tu sais, soit quelqu'un en hérite, bon, moi, ça me... Puis c'est jeté. Alors, c'est quelque chose qui est perdu.
L'équipe de relations avec les médias du ministère de la Culture et des Communications nous précise par courriel que toute demande de réalisation de fouilles archéologiques devait et doit toujours être adressée au ministère. Il en va de même lorsqu'une découverte fortuite survient. Au niveau de ces découvertes et des actions entreprises ensuite, on nous précise qu'après avoir analysé la découverte, le ministère détermine si elle est de nature archéologique ou non. Dans la majorité des cas, cette analyse ne nécessite pas de déplacement sur le terrain. Toutefois, un représentant du ministère peut se rendre sur les lieux si la situation le justifie. L'équipe de relations avec les médias ajoute que les biens et les sites archéologiques appartiennent aux propriétaires du terrain où ils ont été découverts. Le ministère peut accompagner la personne déclarante ou le propriétaire du bien afin d'assurer sa conservation et son entreposage dans des conditions adéquates. C'était Frédéric Lévesque à Tête à la baleine pour l'IGL.